Chapitre 13. I love you. Corisande, qui connaissait parfaitement tous les détours du palais, avait conduit le chevalier dans les appartements qu'elle occupait au temps du vieux Stordilan et qui étaient voisins de ceux de Doralice. Le comte d'Angers la suivait de près, le cœur oppressé de joie et de crainte, heureux, sans savoir pourquoi, de ce qu'elle semblait prendre possession de lui, amoureux jusqu'à la folie et timide comme les vrais amants et les parfaits chevaliers. Enfin, elle arriva dans sa chambre et lui fit signe de s'asseoir sur le tapis à la coutume des morts. Elle-même lui donna l'exemple. Elle était vêtue ce jour-là d'une robe de velours bleu, longue et traînante, qui découvrait le cou le plus blanc, le plus gracieux et le plus délicat qui jamais supportait la tête d'une femme, reine, bourgeoise ou paysanne. Ses épaules, à demi découvertes, suivant la mode des Francs qu'elle avait adoptée, attiraient d'abord les regards. Roland ne put s'en défendre et tomba dans une contemplation qui pouvait durer longtemps. Heureusement, Corisande s'en aperçut et sentit le danger du silence. « Quels souvenirs ces murs me rappellent » dit-elle en soupirant. Roland sortit de son rêve. « Vous les connaissiez déjà ? » dit-il. « C'est là que j'ai vécu 2 ans, » continua-t-elle, « sous la protection de mon oncle, le vieux roi Stordilan, doux et charmant vieillard. Il avait pour moi la bonté d'un père. » Elle parla longtemps sur ce ton. Avez-vous remarqué que la femme, même la plus émue, trouve toujours quelque chose à dire? Si elle n'a pas d'autre sujet sous la main, elle parlera de son chien ou de son perroquet. C'est un don de nature. L'homme, au contraire, se recueille dans les grandes occasions. Le comte d'Angers réfléchissait, et n'osant regarder Corisande en face, il regardait le tapis. Sur ce tapis s'agitaient les pieds de Corisande. Vous qui savez tout, « vous n'ignorez pas que les pieds de la femme ont de l'esprit comme ses mains, ses yeux et tous ses gestes. » Les pieds de la princesse de Grenade étaient, non pas les plus petits, mais les mieux faits, assurément, qu'il y eût au monde. Ils étaient minces, ils étaient délicats, ils sortaient avec grâce des longs plis de la robe, et ils y rentraient avec grâce. C'était merveille de les voir. Aussi Roland regardait et n'écoutait guère. Or, voici quelles étaient les pensées du bon chevalier. J'ai vu bien des prodiges en ma vie, mais je n'ai rien vu de plus beau. Saint-Hilaire et Saint-Denis, ayez pitié de mon âme. Corisande est la plus belle princesse du monde, et je l'aime à la folie. Mais c'est une infidèle. Seigneur Dieu, ayez pitié de moi. M'aimera-t-elle jamais? Qu'ai-je à lui offrir? Mon comté? Charlemagne l'a repris. Or, ma Durandal et Bride d'or, je ne possède rien. Un royaume? Hélas! Avant que j'en ai fait la conquête, Guéferos reviendra, ou quelque autre, et je ne serai plus qu'un étranger pour elle. Oh, je l'aime, je l'aime! » De son côté, Corisande pensait, il m'aime. Que tarde-t-il donc à se déclarer? Je ne peux cependant pas le prendre par la main et le mener moi-même à l'hôtel. Cela ne se fait pas. Et à quel hôtel le mènerai-je? Suivrai-je son Dieu ou le mien? Jésus ou Mahomet? Oh, prophète divin, dessille les yeux de cet infidèle. Fais luire pour lui la lumière qui t'éclaira quand tu vis paraître l'archange Gabriel. Mais voyez s'il parlera. En vérité, c'est trop fort. Peut-être me suis-je trompée. Malheureuse, s'il allait ne pas m'aimer. Au milieu de ces réflexions, un bruit de pas précipité se fit entendre. Roland recouvra la voix. Il saisit habilement la main de Corisande, la baisa avec ardeur et lui dit « Je vous aime ». La princesse de Grenade sourit et sentit son cœur inondé de joie. Elle retira vivement sa main et regarda le chevalier avec une tendresse qui lui fit comprendre qu'il était aimé. Il allait se jeter à ses pieds. Au même instant, Doralice parut, et le malheureux comte d'Angers ne put s'empêcher de la donner au diable. Je n'ose analyser les réflexions de Corisande. « J'arrive à temps, » pensa Doralice. Il est vrai que la rougeur et la confusion des deux coupables les décelaient assez. Corisande reprit la première ses esprits et se leva pour aller à la rencontre de sa cousine. « Vous ne vous ennuyez pas ici, seigneur chevalier ?» demanda Doralice avec intérêt. Roland s'attendait si peu à cette question qu'il demeura interdit. Corisande le regarda en souriant. Ce sourire signifiait clairement « Le comte d'Angers est un brave chevalier, mais il n'a pas l'esprit prompt ni la parole facile. »« Chère cousine, » dit la princesse, « le comte d'Angers a besoin de repos et j'y ai pensé, ma chère. » répliqua Doralice, « et par mon ordre, on lui prépare un appartement dans le palais, celui de Gaphéros. Qui est près du tien ? Dit vivement Corisande. Oui, ma chère amie, répliqua Doralis d'un ton affectueux. Je ne saurais faire moins pour celui qui nous a sauvé l'honneur et la vie. Corisande poussa un profond soupir. Cet empressement de Doralis ne présageait rien de bon. En attendant, dit la reine, allons dîner, et prenons notre part des divertissements publics. J'ai donné ordre de dresser la table au fond du jardin, sous les platanes que mon père a fait planter. Pendant cette courte scène, Églantine et Rimbaud se regardaient en silence et se tenaient derrière Doralis. Leurs yeux exprimaient assez clairement leurs pensées. Roland seul, plongé dans une profonde extase, écoutait la conversation sans rien entendre et énumérait dans son âme les vertus, les grâces, les beautés du petit pied de Corisande. Il est des contemplations moins douces. Enfin, il s'avança pour donner la main à Corisande et descendre dans le jardin. Mais sur un signe de Rimbaud, qui l'avertit de sa méprise, il laissa la princesse seule et présenta la main à Doralis. Celle-ci l'accepta en regardant sa cousine d'un air de triomphe. Tous ensemble allèrent au jardin. Comme ils descendaient l'escalier, Corisande retint Rimbaud en arrière et lui dit deux mots. « Il m'aime. »« Je le sais bien, » dit le Gascon, qui fit signe à la curieuse Églantine de continuer sa route. Et il offre la main à Doralis, continua Corisande. « Ma foi, madame, à moins qu'il ne voulût me l'offrir, je ne vois pas... »« Tu ne veux pas m'entendre ?» s'écria la princesse avec impatience. « Ce n'est pas à toi ni à Doralis qu'il devait s'adresser. »« Madame, » interrompt Rimbaud, « connaissez-vous la jalousie ?»«
Moi, jalouse ?»
dit Corisande avec hauteur. « Appelez ça comme il vous plaira, madame. Supposons, si vous voulez, que vous êtes bien aise de voir la reine s'emparer sous vos yeux d'un bien qui vous appartient. Rimbaud, tu es insupportable !» Le Gascon descendit l'escalier sans répondre. La reine Doralis et ses hôtes s'assirent à l'ombre des platanes et commencèrent à dîner. Des esclaves muets, placés derrière les convives, faisaient le service avec une adresse et une promptitude surprenantes. Roland, assis entre les deux princesses, avait à peine le temps de répondre à leurs questions. Il buvait le vin de Lesbos, apporté par lui seul et pour Rimbaud, et jouissait d'un bonheur sans mélange. « Avouez, seigneur chevalier, dit tout à coup le poète, qu'il fait meilleur ici qu'au fond des montagnes d'Aragon. « Qui sait ? Dit gaiement le comte d'Angers. « Les montagnes d'Aragon n'étaient pas sans charme. N'est-ce pas là que j'eus le bonheur de voir et de délivrer ma belle princesse ?» Un regard de Corisande fut la récompense de Roland. Mais Doralis sentit son cœur se serrer. « Eh quoi ? Dit-elle. « N'est-il pas plus doux de vivre ici ?»«
Oui, »
continua Rimbaud, « et de passer la nuit près des dames, sous la voûte étoilée des cieux, dans ces beaux jardins qui valent mieux que tous ceux que Mahomet promet à ses élus. Oh, les belles nuits étoilées qu'on passe aux bras des bien-aimés !» Ici, Rimbaud fut pincé si cruellement qu'il poussa un cri de douleur. C'était un avertissement d'Églantine. « Qu'as-tu donc ? » demanda le comte d'Angers.
« Oh, rien !» répliqua Rimbaud. « J'ai cru être piqué par une vipère. »
Églantine se mit à rire. « Voilà qui t'apprendra à parler des bien-aimés, » lui dit-elle tout bas.
« C'est une figure poétique, » dit le Gascon. « Tu sais bien que je n'aime que toi. »«
Et moi, » dit Églantine, « je te défends, les figures poétiques ou non poétiques. Nous ne sommes pas encore mariés, très cher. Et la fille de mon père n'en est pas réduite à chercher un amoureux. » Pendant que le Gascon se justifiait de son mieux, Doralis fit enlever la table du souper et servir le café dans des coupes d'or. Du haut de la terrasse qui servait de salle pour le festin, Roland put voir la vallée de Grenade et les flambeaux dont la ville était éclairée. Peu à peu, la lune parut à l'horizon et s'éleva lentement au-dessus des plus hauts sommets de la Sierra Nevada. Le mulet à Seine se montra dans toute sa gloire. Le temps était doux, le ciel sans nuages. Une brise légère apportait le doux parfum des orangers et des citronniers. Doralis, Roland et Corisande, absorbés dans leurs pensées, gardaient le plus profond silence. Heureux ceux qui s'entendent sans se parler. Le comte d'Angers regarda Corisande et soupira. Les rayons de la lune, se glissant à travers le feuillage, éclairaient le plus doux et le plus charmant visage de l'Andalousie.
ses cheveux, à demi dénoués comme ceux de Diane, retombaient sur ses épaules en boucles épaisses et soyeuses. Ses yeux, qui regardaient le ciel, avaient cette expression mélancolique et souriante que donne le bonheur parfait. Elle sentit que Roland la regardait et elle sourit. Il lui prit la main et la serra. Elle se livra à cette douce étreinte. Doralie s'en aperçut et se leva brusquement. « Qu'on fasse venir les musiciens et les danseuses !» s'écria-t-elle d'une voix troublée. Corisande s'aperçut de ce trouble et retira sa main de celle de Roland. « Qu'a donc ta maîtresse aujourd'hui ?» dit tout bas Rimbaud à Églantine. « Tais-toi, » dit Églantine, « on pourrait nous entendre. Le temps est à l'orage ce soir. »«
Diable !» dit Rimbaud. « Si le temps est à l'orage, il faut rentrer. Je n'aime pas la pluie. »«
Rassure-toi, c'est une pluie de larmes. »«
Raison de plus. »«
J'ai toujours peur quand je vois pleurer les femmes. »«
Pourquoi ?» demanda Églantine.
« Parce que... »«
Pourquoi ?» réponds.
« Et surtout prends garde de dire une impertinence. »«
Eh bien, » répliqua Rimbaud, « c'est parce que les femmes pleurent comme les crocodiles, quand elles ne peuvent pas saisir et dévorer leur proie. »
Églantine prit un visage sévère.
« Monsieur Rimbaud, » dit-elle avec gravité, « je vous engage fort à rentrer dans Saragosse. »«
Hein ? Plaît-il ?
Vous êtes un homme fort mal élevé. »
« Églantine. »«
Un impertinent. »
« Églantine. »
« Un faquin. »
« Églantine. »
« Et pour tout dire,
un poète. »
« Églantine, vous me percez l'âme. »
« Retournez à Saragosse. »
« Églantine, vous me déchirez le cœur. »
« Retournez à Saragosse. »
« Vous me désespérez. »
« Retournez à Saragosse. »
Rimbaud tira son épée.
« C'en est fait, » dit-il. « Voilà le prix de mon amour. Oh, cruel, sois témoin de ma mort. »
Comme il faisait le geste de se jeter sur la pointe de l'épée, Églantine l'arrêta.
« Vivez, » dit-elle, « et dorénavant, soyez plus polis pour les dames. »
Pendant cette querelle, que les deux princesses et Roland, trop occupés d'eux-mêmes, n'entendirent pas, les musiciens et les danseuses étaient arrivés. Rimbaud se glissa sans être aperçu près du comte d'Angers et lui dit tout bas
« Seigneur, j'ai deux mots à vous dire. »
Roland se leva et le suivit sous un bosquet de platanes.
« Seigneur, » continua Rimbaud, « vous plairait-il d'être roi de Grenade ?»«
Que dis-tu là ?» répliqua le comte d'Angers étonné.
« Je dis qu'il ne tiendrait qu'à vous. La reine d'Oralis vous regarde d'un œil fort doux. »
« Rimbaud, » dit Roland d'une voix sévère, « vous savez que je n'aime pas la médisance. »
Le Gascon baissa la tête avec un repentir apparent et feignit de s'en aller.
« À quel signe ?» continua le chevalier. « As-tu reconnu ?»
Le Gascon s'arrêta et dit « Je n'ai rien reconnu. »
« Qui te fait croire ?»«
Je ne crois rien. »
« Es-tu le confident de la reine ?»«
Je ne suis rien qu'un joueur de guitare. »
« Voyons, explique-toi. »
« Vous n'aimez pas la médisance. »
« Rimbaud, mon ami, si je t'ai blessé par mes paroles,
vous ne me blessez pas. »
« Qu'est-ce que tu voulais dire ?»«
Moi, rien.
Que la nuit est belle, que la lune est brillante,
et que le mulet à Seine est la plus belle montagne qu'on puisse voir.
Voulez-vous que je vous chante les premiers vers d'un grand poème que j'ai dessein d'écrire sur vos exploits de ce matin ? Écoutez-moi ceci.
Danger, le noble comte, beauté, monte à cheval, il tire du randal que personne n'affronte.
« Maudit bavard !» s'écria Roland. « Que chantes-tu là ?
Des vers à votre louange, que redira la postérité ?
Laisse là ma louange et la postérité,
Doralis même.
Ou elle déteste Corisande.
Je ne sais pas encore lequel des deux.
As-tu des preuves ?
Est-ce qu'on a des preuves ?
Dieu seul sait ce qui se passe dans un cœur de femme.
Eh bien, vous rêvez ?
C'est toi qui rêves.
C'est toi qui rêves, dit Roland,
et je suis bien fou de t'écouter.
« Ne m'écoutez pas !»
Roland demeura quelques instants pensif.
Le bon chevalier, pas plus qu'un autre, n'était insensible à la gloire d'être aimé d'une grande reine et d'une femme aimable. Mais il faut dire à sa louange que le souvenir de Corisande eut bientôt banni toute autre pensée de son cœur.
« Non, je n'hésite pas, » se dit-il en prenant son parti après quelques réflexions intérieures.
« Nous partirons demain. »«
Qui, nous ?» dit Rimbaud, qui feignit d'être étonné.
« Nous, c'est-à-dire toi et moi. »
Rimbaud secoua la tête.
« Vous, seigneur chevalier, à la bonne heure.
Mais moi, serviteur, que dirait Églantine ? »
« Qu'est-ce qu'Églantine ?
C'est la jeune dame que vous voyez là-bas et la confidente de Doralis. »«
Eh bien, que nous importe Églantine ? Le Gascon se mit à rire.
« Et que m'importe Corisande ?»«
Drôle !» s'écria Roland irrité.
« Oses-tu comparer ?»«
Je ne compare pas, » reprit le Gascon. « Églantine est mille fois plus belle. Je le soutiendrai jusqu'à la mort. »«
Donc, tu restes ?»«
Je reste, et si vous voulez m'en croire, vous resterez aussi. Doralis vous aime. »«
Encore ?»«
Toujours, Doralis vous aime. »
« Et moi j'aime sa cousine. »«
Parbleu, je le sais bien. Voilà ce qui me gêne. J'avais compté sur la province que vous m'aviez promise, sur une île, un continent, un monde ou un chef-lieu de canton, que vous deviez me donner dans votre royaume, en toute propriété. Eh bien, je te le promets encore.
Promettre est bon, seigneur comte, mais tenir est meilleur.
Voilà un bon royaume, une bonne reine, une jolie femme, très raisonnablement amoureuse de vous. » Vous n'avez qu'à vous baisser et prendre pour faire votre fortune et celle de votre serviteur. Et je vous vois des doutes et des scrupules de conscience, comme à une novice qui va confesser son premier péché.
Par le saint crème, vous me faites lever les épaules. Je n'ai jamais vu chevalier errant de votre humeur.
C'est que tu n'as jamais vu d'homme d'honneur, apparemment.
Ainsi, seigneur comte, c'est une chose résolue. Vous refusez Doralis et Grenade.
Je refuse.
Le Gascon se mit à genoux devant le comte.
« Eh bien, monseigneur, pardonnez-moi d'avoir douté de vous. Je perds mon île, mais je gagne de contempler le héros le plus illustre qui, depuis Alexandre le Grand, ce fameux chevalier macédonien, ait tiré l'épée pour l'honneur et la défense des dames. Me voilà prêt à servir aux amours. Vous aimez Corisande ?
Je l'adore, et je la disputerai à tout l'univers.
Et à Gaféros ?
Ah ! Dit Roland, qu'il vienne, celui-là. Et je lui ferai d'un seul coup expier tous ses crimes. »
Entre nous, continua Rimbaud,
vous faites bien de préférer Corisande.
Pourquoi ?
Parce que vous ne seriez pas le premier qui ait préféré Doralis.
Oh oh, encore des cancans !
Non, seigneur comte, mais de belles et bonnes vérités. Doralis est veuve.
Parbleu, je le sais bien.
Oui, mais veuve sans avoir été mariée.
Hein ? Que veux-tu dire ?
Je croyais que Mandricard.
Oui ?
« Seigneur, Mandricard, roi de Tartarie, a eu le bonheur d'être aimé d'elle,
et il l'a épousée. »«
Si l'on veut, car on n'a jamais pu retrouver le cadi devant qui fut contracté le mariage. »«
Mais enfin, l'essentiel y était, et la preuve, c'est qu'elle a porté le deuil de ce grand roi lorsqu'il fut tué par votre cousin Roger. »«
Diable !» dit le comte d'Angers, « je croyais à sa vertu. »«
Moi aussi, j'y crois.
Seulement, c'est une vertu éprouvée, expérimentée. » qui a vu le feu comme l'acier qu'on trempe dans la fournaise.
« Et depuis la mort de Mandricard ?»«
Ma foi, seigneur comte, je ne sais pas ce qui est arrivé, je n'y étais pas. »«
Et de qui tiens-tu ces sottes histoires ?»«
D'Églantine. »«
La dame d'honneur de Doralis, mais c'est une infâme trahison, et je vais l'avertir. »
Le Gascon l'arrêta.
« N'allez pas si vite en besogne, seigneur comte, et daignez réfléchir. »
Églantine a tous les secrets de sa maîtresse, et c'était par honneur et par devoir.
Excepté avec toi.
Doit-elle avoir des secrets pour son futur époux ?
Si Doralis la chasse, Églantine, qui est la bonté même, mais qui ne peut s'empêcher de donner ça et là un coup de langue, fera savoir à tout l'univers que la veuve du grand Mandricard est une reine assez légère. Ne vaut-il pas mieux que ce secret reste enfermé entre elle, vous et moi ?
Il a raison, dit Roland pensif.
Donc, continua Rimbaud, n'avertissez personne. Et qu'il vous suffise de connaître à fond l'aimable et tendre veuve du grand Mandricard.
« Merci, » dit Roland.
« Ton conseil est d'un ami, et je m'en souviendrai. »
Après cette conversation, tous deux retournèrent sur la terrasse, et les danses commencèrent. Roland fut ébloui de la beauté et de la magnificence de cette fête, si différente des rudes tournois auxquels il avait assisté à la cour de Charlemagne. Doralis suivait dans ses regards toutes ses émotions, mais le bon chevalier, tout entier à son amour pour la belle Corisande, faisait peu d'attention aux coquetteries de la reine de Grenade. Enfin, elle fit un signe et tous se retirèrent, danseuses et musiciens. La reine fit apporter des tapis de Perse, présents du sultan d'Arménie, et des coussins de velours brodés d'or. Elle se coucha à demi, la tête appuyée sur son bras droit, engagea Corisande à l'imiter et demanda au comte d'Angers, qui était assis à ses pieds, de lui conter ses aventures.
« Un héros tel que vous, dit-elle, doit avoir bien des histoires à raconter. La renommée nous en a dit plusieurs. Daignez, seigneur comte, nous dire le reste. »«
Madame,
répondit Roland, assez embarrassé de cette demande, car il n'avait pas la parole facile, et il haïssait les longs récits.
« Ma vie est très simple, et n'a rien que de très ordinaire. La voici, en quelques mots. »